Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis dans la joie de partager ce culte avec vous. Et je m'appelle Jonathan Kazadi, j'ai 29 ans, je suis pasteur en formation. Donc je suis d'origine congolaise et apparemment les prédicateurs congolais, ils mettent des costumes et ils transpirent. Mais aussi ils crient, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas crier ce matin. Donc je vous propose le texte de Jacques, qu'on puisse méditer ensemble, réfléchir sur ce texte. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille Ten Boom avait construit une chambre secrète pour cacher les Juifs, pour les protéger des nazis. Et quand ils ont été dénoncés, une grande partie de la famille a été tuée. Deux sœurs de la famille, donc Corrie et Betty Ten Boom, ont fini dans un camp de concentration. Et pourtant, malgré cet endroit rempli de peur, d'horreur, elles ont pu partager l'évangile. Et grâce à elles, plusieurs femmes ont pu rencontrer le Seigneur. Deuxième histoire, Desmond Doss, soldat pendant la bataille d'Okinawa, était adventiste. Sa conviction était de ne jamais porter une arme, de ne jamais ôter la vie à personne. Il s'est engagé comme médecin militaire parce qu'il avait catégoriquement refusé de porter une arme et de tuer une personne. Et malgré ça, il a pu sauver 75 soldats blessés pendant cette bataille. Et à votre avis, c'est quoi le point commun entre les deux histoires? Qu'est-ce qui relie les deux histoires? Entre cette famille qui protège certaines personnes qui étaient juives pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été amenées à un camp de concentration et donc on peut partager l'évangile, et entre ce soldat qui, malgré sa conviction, a pu être sur le terrain et sauver 75 soldats blessés. En fait, dans chaque récit, chaque personne s'est servie d'une situation difficile, dangereuse, même parfois injuste, pour accomplir un but précis. Et dans le texte de ce matin, on va voir que Jacques, en tout cas de ce que j'ai pu en tirer, comment Jacques nous montre que Dieu agit exactement de cette manière. Alors que les destinataires de la lettre font face à des épreuves terribles, difficiles, Jacques va nous montrer comment est-ce que Dieu poursuit trois objectifs. Premièrement, Dieu veut bénir dans l'épreuve. Deuxièmement, Dieu veut purifier dans l'épreuve. Et troisièmement, Dieu veut se glorifier dans l'épreuve. C'est pour ça que je nous ai proposé comme titre trois objectifs de Dieu dans l'épreuve. Mais avant ça, j'aimerais qu'on prie encore. Seigneur, tu as dit, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Seigneur, on te demande par ton esprit de nous rendre humbles alors que nous nous apprêtons à méditer sur ta parole, à écouter ta parole. Rends-nous humbles pour que nos vies puissent y apporter une réponse favorable qui te rende gloire, Seigneur. Amen. Donc, premier objectif, Dieu veut bénir. Heureux. Voici le premier mot de notre section. Heureux. On pourrait penser à une émotion, à un état psychologique, à une impression personnelle. Mais non, ce mot est un mot théologique. Heureux. Et c'est avec ce mot que Jacques ouvre son exhortation. Heureux. Et les premiers lecteurs de Jacques savaient très bien ce que voulait dire ce mot. Parce que ce mot, il leur a été familier. C'est un mot qui résonne dans tout l'Ancien Testament. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Psaume 32, verset 1. Heureux celui dont la transgression est pardonnée. Psaume 65, verset 5. Heureux l'homme que tu choisis et que tu fais approcher de toi. Ce mot heureux est un mot théologique, comme je le disais, et c'est un verdict de Dieu. Une déclaration de bénédiction de celui qui marche avec le Seigneur, de celui qui craint le Seigneur. Mais ce mot, on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament et particulièrement dans la bouche de Jésus lui-même. Sur le sermon sur la montagne dans Matthieu 5, lorsque Jésus prononce les béatitudes. Mais pour Jésus, les heureux ne sont pas les célèbres de son monde. Ceux qui sont heureux ne sont pas les riches, les puissants. Être heureux, être celui qui appartient au royaume de Dieu. Jésus s'adresse aux plus faibles, aux plus pauvres, aux persécutés, aux affamés. En bref, il s'adresse à des personnes qui subissent des injustices sociales, dans de difficultés énormes. Et c'est à eux que Jacques dit « heureux ». Et les béatitudes, dans Matthieu 5, sont au cœur de l'enseignement du royaume. Elles décrivent l'identité de celui qui appartient déjà au royaume de Dieu, tout en projetant ses yeux vers l'avenir. Ils sont heureux maintenant parce qu'ils appartiennent au royaume. Ils seront heureux plus tard parce que le royaume sera à eux. Et c'est exactement cette logique que Jacques suit au verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et ce qu'il affirme ici fait déjà écho, si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi, fait écho des versets 2 à 4 du même chapitre au départ, lorsqu'il disait, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves que vous pouvez subir, vivre. En fait, le verset 12 est comme l'aboutissement des versets 2 à 4. L'épreuve qui produit la maturité, donc au verset 2 à 4, devient ici la voie vers la couronne de vie. Le croyant est heureux maintenant parce qu'il est héritier pour l'éternité. Voilà pourquoi Jacques peut dire heureux. Et précisons quand même que Jacques écrit à des croyants pauvres, à une diaspora juive dispersée dans l'Empire romain, souvent exploitée par des riches propriétaires, une communauté qui est secouée et tentée de compromettre sa fidélité pour survivre. Et on peut voir que Jacques dit que celui qui tient bon, que celui qui supporte. Jacques précise que cette couronne est réservée à ces personnes, sachant que les épreuves dans la vie, il y en aura toujours. Il faut donc une persévérance active, résister à la pression des épreuves, demeurer ferme dans l'alliance avec le Seigneur. Puis il ajoute, après avoir fait ses preuves, littéralement après avoir été authentifié comme un métal qui est purifié au travers du feu, c'est alors qu'il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et Jacques n'est pas naïf. Il connaît la souffrance de ses frères. Il connaît les réalités sociales de ses frères. Il connaît leur pauvreté. Il voit l'injustice qu'ils vivent. Il voit leur humiliation. Mais son premier réflexe, c'est de les inviter à lever les yeux vers l'éternel, vers l'espérance, à orienter leur regard sur les promesses de Dieu. Et ça fait écho, suivez avec moi toujours, au verset 9 et 10, lorsqu'il disait que le frère de condition humble se glorifie de son élévation et le riche de son humiliation. Parce que les richesses passent comme l'herbe qui sèche. En d'autres termes, tous ceux qui brillent sur cette terre, toutes les choses que nous pouvons avoir sur cette terre, vont faner, vont disparaître. Mais la couronne de vie que le Seigneur a réservée à ceux qu'il aime est une couronne éternelle qui demeure. Les bénédictions de Dieu ne se fanent pas, elles sont incorruptibles, sans souillure. C'est le summum de toutes les bénédictions de Dieu, la couronne de vie. C'est notre récompense, et c'est ta récompense et c'est ma récompense. En fait, Jacques dit, dans vos détresses, regardez vers l'avenir, vers les promesses de Dieu. Méditez sur l'espérance à venir. Fixez vos yeux vers les promesses de Dieu et méditez sur les bénédictions de Dieu. Oui, l'épreuve est douloureuse, mais elle doit être traversée avec fidélité. C'est la fidélité qui prouve l'authenticité de notre foi. Et cette authenticité mène à la promesse, mène à cette couronne qui nous a été réservée. Voilà ce que Dieu veut dans l'épreuve. Que nos yeux ne s'attachent pas à ce qui se passe dans ce monde. Que nos cœurs ne s'attachent pas aux réalités terrestres. Mais à l'espérance à venir, aux bénédictions de Dieu. Alors, arrivé ici, on pourrait se dire, en quoi est-ce que ça me concerne ? Peut-être que tu te poses la question. Et pourtant, Dieu veut nous interpeller ce matin. Il nous pose une question simple, il t'oppose une question simple. Comment regardes-tu tes épreuves ? Et souvent, on a un problème, c'est que bien souvent, on n'arrive pas à bien traverser nos épreuves. Quand l'épreuve arrive, elle vient brouiller notre regard. Elle fait disparaître ce que Dieu a déjà dit sur nous. Elle nous écrase, elle nous définit, elle vole notre vision. Plus de promesses, plus d'identité en Christ, plus de bénédictions, parce que l'épreuve prend trop de place dans notre cœur. Et si nous réagissons ainsi, c'est aussi parce que notre définition de la bénédiction est souvent erronée. On peut l'associer à l'amélioration de nos circonstances, une réponse rapide du Seigneur, un mieux-être immédiat. Mais pour Jacques, Dieu nous montre autre chose. Il nous montre que la bénédiction de Dieu peut se vivre, même dans l'épreuve. En fait, refuser l'épreuve, parfois, c'est refuser quelques bénédictions qui sont rattachées à l'épreuve. Car dans l'épreuve, Dieu veut nous rappeler que nous sommes bénis, même quand rien ne va. Dieu veut nous apprendre une réelle dépendance. Dieu veut rallumer en nous le désir d'aimer le monde à venir, l'espérance, les promesses de Dieu. Dieu veut ancrer notre regard vers l'espérance. Et ces choses ne peuvent se vivre que dans des temps difficiles. C'est pour ça qu'il y a une bénédiction, il y a des bénédictions qui sont rattachées au fait de traverser l'épreuve. Parce qu'elles révèlent les promesses et les bénédictions de Dieu. Comment obéir à cette parole qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » si nous ne savons pas pourquoi nous voulons nous réjouir, si nous ne connaissons pas le contenu des bénédictions de Dieu? Comment dire comme Néhémie « La joie de l'Éternel est ma force » si on ne prend jamais le temps de méditer les paroles de Dieu? Ou alors, comme David, lorsqu'il avait dit « Rends-moi la joie de ton salut. » Si David a perdu sa joie, psaume 51, lorsqu'il a perdu de vue la grâce de Dieu, c'est justement parce que ses yeux étaient brouillés. Combien plus nous, durant les épreuves? Un chrétien qui ignore son identité en Christ est un chrétien qui est rapidement secoué par les réalités de la vie. La seule joie que tu connais, c'est peut-être celle de ton CDI. C'est peut-être celle de ton mariage. C'est peut-être celle de ton confort. Est-ce que la joie de l'Éternel est ta force? Est-ce qu'en temps de difficulté, tu peux te réjouir dans le Seigneur? La seule joie qui fortifie vraiment, c'est la joie du Seigneur. Elle est plus profonde que toutes ces joies temporaires, plus stable que toutes les saisons favorables et plus forte que les épreuves que tu traverses. Et c'est cette joie-là que Jacques appelle heureux. La joie qui vient des promesses de Dieu, qui t'aide à tenir quand tout vacille. Et si nous ne pratiquons pas la joie du Seigneur quand tout va bien, comment la vivrons-nous quand l'épreuve frappera? Parce que l'épreuve est justement le moment où notre joie est le plus challengée. Alors si nous voulons que notre joie du Seigneur devienne une réelle force, nous devons connaître ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a promis. Réaliser l'identité qu'il nous a donnée. réaliser que nous appartenons au royaume de Dieu, qu'on a une promesse, qu'on a une espérance, qu'on a un héritage. Et c'est pour ça que Jacques peut dire heureux. Parce que c'est ce qu'il regarde, c'est l'œuvre de Dieu dans l'épreuve. Dieu veut nous bénir en temps d'épreuve. Parce que Dieu veut faire ressortir toutes ces choses pour que tu demeures ferme, pour que tu tiennes bon, afin d'obtenir la couronne de vie qui t'a été réservée. Alors visiblement, au milieu de l'épreuve, les destinataires de la lettre n'ont pas su voir les privilèges du royaume. Ils ont cédé. L'épreuve a dévoilé une faille. Et la conséquence est inévitable. Au lieu de nourrir leur joie en Dieu, ils ont laissé entrer le soupçon. Et c'est ce que nous allons voir dans les versets qui suivent. Deuxièmement, l'objectif de Dieu, c'est de nous purifier. Suivez avec moi le verset 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais que chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Et dans ces versets-là, le mot que Jacques utilise pour tenter est exactement le même mot qu'il utilise au verset 2, qui a été traduit par épreuve. Et dans la langue d'origine, c'est le mot perasmos. Même mot, mais deux directions possibles. Au début de la lettre, perasmos désigne l'épreuve qui fortifie. Mais ici, perasmos désigne la tentation qui détruit. Un même mot, deux directions. Autrement dit, une même situation peut soit t'élever, soit te faire tomber. Une épreuve peut devenir une tentation selon la manière dont tu décides de la supporter. Alors pourquoi cette confusion? Comme je l'ai dit, Jacques écrit à la diaspora juive dispersée dans l'Empire romain, et c'est une diaspora qui avait l'habitude de lire l'Ancien Testament traduit dans la langue grecque. Et dans cette traduction, les mêmes mots étaient utilisés pour parler de l'épreuve, comme je viens de le dire, comme dans l'histoire d'Abraham. Et peut-être, potentiellement, il se disait, si Dieu envoie l'épreuve, il envoie aussi la tentation. C'est peut-être aussi ce qu'on peut se dire. Mais Jacques coupe court. Il dit, Dieu n'est jamais, jamais la source de la tentation. La tentation vient de nos propres désirs. L'épreuve est neutre, mais c'est notre réaction qui la transforme en tentation. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Imagine que ton conjoint se relâche, devient passif. Il te laisse porter seul la charge de la maison, des enfants, de la vie spirituelle. Ça, c'est l'épreuve. Ce déséquilibre douloureux que tu peux supporter. Et la tentation, pour la personne qui l'a subi, ce serait de répondre par l'amertume, le mépris, la domination. Autre exemple, imagine ton patron te confier un dossier énorme avec un délai resserré. Ça, c'est l'épreuve. Mais la tentation serait potentiellement de tricher, de manipuler pour s'en sortir, de vouloir plaire à notre patron. Imagine encore, en tant que pasteur, tu multiplies les programmes à l'église, des études bibliques, des temps de prière, mais l'église ne répond pas de la manière dont tu avais prévu, envisagé. Ça, c'est l'épreuve. C'est ce dynamisme-là qui te décourage. Et la tentation serait de remettre en cause ton appel, voire pire, de minimiser le ministère du Saint-Esprit. C'est ça qu'il se passe dans notre texte. Dans leur difficulté, plutôt que d'y voir l'occasion de dépendre de Dieu, ils ont commencé à soupçonner la bonté de Dieu. Mais Jacques insiste, Dieu n'a rien à voir avec la tentation. Et pour que ce soit bien clair, il va expliquer le mécanisme de la tentation dans les versets qui suivent. Regardez le verset 14. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Il dit, chacun. Ça souligne que personne n'échappe à cette lutte. Chacun. Il dit ensuite « attirer ». Le terme dans le texte d'origine renvoie à l'image de la chasse, d'un animal débusqué hors de sa cachette. Ça veut dire que nos désirs nous arrachent à notre dépendance à Dieu. Il utilise un deuxième terme, « entraîner ». Et ce terme dans le texte d'origine renvoie à l'image de la pêche, d'un poisson qui a été trompé par un appât. Ça signifie que notre désir nous séduit, nous trompe jusqu'à nous éloigner du Seigneur. Le problème est bel et bien leur désir. Ce désir qui n'est pas soumis à Dieu. Et Jacques leur avertit qu'un tel désir devient rapidement une voie vers le péché. Le verset 15 décrit ce processus. Il parle de désir, comme je l'ai dit, un désir ou une épreuve, c'est des choses qui peuvent être neutres. Ensuite, il parle de ce désir qui est entretenu, donc pas soumis à Dieu, qui devient séducteur et convoitise. Et cette convoitise enfante le péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, mène à la mort. À la mort spirituelle, à la mort qui touche à notre sanctification, à notre piété, à notre joie dans le Seigneur, à notre vision. Et laissez-moi encore vous illustrer ce que je viens d'expliquer là. Par exemple, imagine, tu trouves ton collègue de travail joli. Cette personne est plutôt jolie. Il n'y a rien de mal à trouver quelqu'un joli, de base. Rien de mal à dire que mon collègue, est bien habillé, est beau. Mais le problème, c'est que si tu laisses ce désir grandir, tu peux te surprendre à rêver. Ah, si j'avais une femme comme elle. Ah, si j'avais un homme comme lui. Le désir entretenu devient alors convoitise. Et c'est ça qui conduit au péché. Et c'est très, très subtil. Parce que ça part d'une base neutre, d'un désir. Et si ce désir n'est pas soumis à Dieu, il nous mène, vers le péché. Et pour les lecteurs de Jacques, ce n'était pas forcément un désir sexuel, puisqu'il traverse des épreuves, justement. C'était l'envie, la jalousie, la violence, la rancœur, la vengeance, l'amertume, l'envie de meurtre. Toutes ces choses animaient leur cœur, parce qu'ils traversaient des moments difficiles. Et parce que leur désir n'était pas soumis à Dieu. Alors l'intention de Jacques, c'est de dire que l'épreuve n'invente rien. Elle ne fait que mettre au jour, à jour, elle ne fait que dévoiler ce qui était vraiment caché dans notre cœur. Une âme qui n'est pas nourrie, qui n'est pas dépendante de Dieu, qui n'est pas nourrie par les promesses de Dieu, si elle n'est pas remplie de la parole de Dieu, si elle n'est pas entretenue par la joie du Seigneur quand tout va bien, alors au jour de l'épreuve, ce qui sortira, ce sera ce qui était déjà dans notre cœur. Frustration, colère, murmure, impatience, désir de fuite, de vengeance. Réalises-tu qu'une même situation peut devenir pour toi soit une bénédiction, soit une chute selon la manière dont tu la vis? Quand tu tombes, est-ce que tu as tendance à accuser Dieu, accuser tes circonstances, plutôt que de te regarder honnêtement, regarder ton propre cœur? Crois-tu vraiment que Dieu est en train de te façonner dans l'épreuve? Quelles sont ces choses qui t'attirent, qui te débusquent, qui t'appâtent hors de la dépendance de Dieu? As-tu conscience que tes tentations sont souvent nourries par ton propre contexte, tes souffrances, tes frustrations? Et surtout, est-ce que tu laisses l'épreuve te rapprocher de Dieu? Comme je l'ai dit, comme j'essaie d'expliquer, Dieu peut se servir de l'épreuve comme un feu qui nettoie, pour révéler ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. Comme à l'époque d'Ézéchias, où la Bible dit qu'Ézéchias avait demandé aux prêtres d'aller purifier le temple, de sortir toute impureté du temple. Ou comme Jésus, lorsqu'il allait dans le temple, il a chassé les marchands. Son zèle exprimait la passion de Dieu, de la pureté de sa maison. Et aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Le temple qui existe aujourd'hui, c'est ton cœur. Et lorsque Dieu se sert de l'épreuve, c'est pour révéler ce qu'il y a vraiment dans ton cœur et pour purifier ton cœur. Il met la lumière sur ce pardon que tu refuses de donner, cette rancœur que tu gardes, cette vengeance que tu nourris, cette convoitise peut-être, ce murmure. Alors si plaire à Dieu est vraiment notre priorité, si c'est ta priorité, alors l'épreuve devient un appel pour nous. Un appel à reconnaître honnêtement ce que Dieu met en lumière et à nous abandonner à lui dans la repentance. Afin de dire comme le psalmiste, il est bon pour moi d'être affligé. Il est bon pour moi d'être affligé afin que j'apprenne tes prescriptions. Psaume 119, verset 71. Alors pour résumer, l'épreuve a révélé que cette communauté ne persévérait plus dans les promesses de Dieu. Son espérance s'était refroidie, sa dépendance à Dieu s'était affaiblie. Et tout cela venait d'une seule racine, c'est que leur vision de Dieu était faussée. Mais Jacques ne va pas s'arrêter là. Dans les versets suivants, Jacques va tenter de restaurer leur vision erronée. Il va tenter de restaurer leur théologie erronée de Dieu. C'est pour ça que l'objectif de Dieu, troisième objectif, c'est de se glorifier. Et nous allons maintenant nous focaliser sur les trois derniers versets. Alors visiblement, l'épreuve avait révélé que leur vision de Dieu était biaisée. Et il le montre au verset 16, il dit « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. » Ces frères s'étaient déjà laissés séduire par un mensonge, pensaient que Dieu était la source de leur tentation. Ils ont soupçonné la bonté de Dieu. Et leur erreur théologique et doctrinale avait des conséquences pratiques. Si on croit une mauvaise chose, on pratiquera une mauvaise chose. Alors Jacques corrige leur vision. Il va leur rappeler trois vérités essentielles sur Dieu. Il va leur dire que dans l'épreuve, Dieu expose sa générosité. Le verset 17a dit, « Tout bienfait excellent et tout don parfait » viennent d'en haut. Et l'emploi des deux mots bienfait et don, en fait, ce sont des mots qui sont plutôt moins proches, similaires. En fait, Jacques utilise deux mots proches pour renforcer l'idée selon laquelle que Dieu est réellement bon. Et toute bonté vient de Dieu. Et ça rappelle Genèse 1. Chaque jour de la création, Dieu voyait que tout était bon. Et ça rappelle aussi le verset 5 du premier chapitre de Jacques, qui affirme que Dieu donne généreusement. Il donne à tous simplement et sans reproche. Dieu donne. James Packer, un théologien évangélique anglican, dit dans son livre qui s'intitule « Connaître Dieu », il dit la phrase suivante. Il dit « La générosité est pour ainsi dire ce qui caractérise la perfection morale de Dieu. C'est la qualité qui détermine la façon dont se manifesteront toutes les autres perfections divines. Dieu est bon envers tous à certains égards et envers certains à tous égards. » N'est-ce pas exactement ce que Jacques veut que nous puissions retenir quand il dit que tout ce qui est bon vient de Dieu? Il nous rappelle à voir derrière chaque bienfait de Dieu la générosité du Père. Sa bonté n'est pas accidentelle, elle constitue son être. Voilà pourquoi Jacques nous invite ce matin, t'invite à ne pas douter de sa bonté lorsque l'épreuve frappe. Sa générosité n'est pas passagère ni capricieuse, elle est généreuse. Généreuse, constante, stable, immuable. Et c'est ce que nous voyons par la suite. Dans l'épreuve, Dieu démontre sa stabilité. Le verset 17b, il dit, ces dons descendent du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Contrairement aux astres créés par Dieu qui se lèvent, qui se couchent, qui projettent des ombres, Dieu, lui, ne varie pas. même dans sa bonté. Il ne varie pas, il ne change pas. Il est constant dans sa bonté, fidèle dans ses dons. Là où nos désirs changent, nous séduisent, nous trompent, Dieu demeure stable, immuable, digne de confiance. On le voit encore plus parce qu'il avait accompli toutes les promesses de l'Ancien Testament. Dieu avait promis d'envoyer son esprit et il l'a accompli en Jésus-Christ. Dieu est digne de confiance. Dieu ne change pas. Jacques, troisièmement, veut nous rappeler que dans l'épreuve, Dieu donne sa grâce. Regardez le verset 18. « Conformément à sa volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons comme les prémices de ses créatures. » Il leur dit, « Mais regardez comment Dieu est digne de confiance. » Tout ce qu'il avait promis dans l'Ancien Testament, le pardon des péchés, la promesse de la présence de Dieu, l'envoi de son esprit, il l'a accompli dans l'Église. Et ce verset fait un parallèle avec le verset 15, où le verset 15 disait « La convoitise engendre le péché et le péché la mort ». Ici, nous voyons que Dieu, lui, au moyen de sa parole, engendre et donne la vie. C'est donc deux filiations qui s'opposent. Être enfant de ses désirs ou être enfant de Dieu. Et tout ça vient de sa propre volonté. Ce n'est pas un mérite, c'est un don de Dieu. Et le moyen, c'est la parole de vérité. L'évangile de Jésus-Christ qui sauve. L'évangile de Christ crucifié et ressuscité, glorieux, Seigneur et Seigneur. Son but est que nous soyons les prémices de sa création. Participant du monde à venir. Le premier fruit consacré à Dieu, l'avant-goût de la recréation finale, du monde béni et promis de Dieu. Ça, la vie éternelle, la nouvelle naissance, c'est le plus grand don que Dieu nous ait donné. Et quand on a conscience de ça, dans l'épreuve, ce don de Dieu nous fortifie, elle nous rassure. Elle nous garde dans la tentation, de la tentation. La couronne de vie qu'il avait promise au verset 12, nous apprenons ici qu'il nous l'a déjà donnée en Jésus-Christ. La vie nouvelle que Dieu nous a donnée garantit cette couronne à venir. Ça veut dire que ce n'est pas tes propres efforts qui te donnent d'avoir cette couronne. C'est l'effort de Christ qui nous garantit que cette couronne nous appartient. Et c'est ce que l'apôtre Pierre affirme. En 1 Pierre 1, les versets 3 à 5, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous a été réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi. » Par le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est notre promesse. C'est Dieu qui sécurise notre salut. Donc on ne persévère pas dans l'épreuve pour mériter. Il n'y a rien de bon en nous pour mériter cette couronne de vie. C'est l'obéissance et la persévérance de Jésus-Christ qui nous donne accès à cette croix. Un homme a déjà persévéré parfaitement à ta place, et c'est Jésus-Christ. Il s'est incarné, il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est fait serviteur, et la Bible dit qu'il a été tenté en tout point comme nous, mais sans jamais commettre de péché. Et c'est grâce à son obéissance que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est notre espérance, déjà reçue maintenant, malgré les épreuves, mais pas encore pleinement révélé, parce que nous voyons ce monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle la tension du déjà, béni, pas encore, parce que toutes les bénédictions de Dieu ne sont pas encore pleinement établies et visibles. Mais nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Alors dans l'épreuve, soupire après les choses célestes. Attache-toi aux promesses de Dieu. Car le plus grand don, c'est cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance qui fait de nous les prémices de sa recréation finale. quelle bénédiction. Les prémices de sa création et qui garantit la recréation finale. Un monde où toute souffrance disparaîtra. Un monde où la première chose que Dieu fera, c'est essuyer nos larmes. Où nous marcherons sur l'or. Où tout pour l'éternité, nous serons aux côtés du Seigneur. Sans jamais plus pouvoir pécher. Voilà comment Dieu se glorifie dans l'épreuve, en redressant notre vision, en mettant le curseur au bon endroit. Dans la souffrance, il se révèle comme le Dieu qui donne, le Dieu qui demeure et le Dieu qui sauve. L'épreuve ne change pas Dieu, mais nous permet de voir ce que Dieu est vraiment. Dans l'épreuve, Dieu ne change pas, mais il utilise l'épreuve pour changer notre vision. L'épreuve devient alors le lieu où Dieu se glorifie, comme je le disais, quand tout s'effondre, mais que Dieu continue de donner, sa générosité devient visible. Quand tout bouge autour de toi, mais que Dieu reste le même, sa fidélité devient visible. Quand ton cœur vacille, mais qu'il te ramène à la vie, le Seigneur te ramène à la vie, alors sa grâce devient visible. C'est Dieu qui se glorifie au milieu de l'épreuve, en montrant ce qu'il est vraiment. Alors, pour conclure, pour clore, j'aimerais nous proposer trois applications qu'on peut appliquer lorsque l'épreuve frappe. J'essaie de tirer trois applications qui découlent de ce texte-là. Premièrement, donc en fait, l'application, je l'ai appelée God, donc le sigle G-O-D, qui veut dire Dieu en anglais, donc G-O-D, God. Donc premièrement, garde en mémoire tes privilèges. Lorsque l'épreuve arrive, garde en mémoire tes privilèges. Dans l'épreuve, Dieu veut réactiver peut-être ce que tu as oublié ou mettre en lumière ce que tu n'avais pas encore saisi, ton identité en Christ. Tu es un enfant du royaume, les promesses que Dieu nous a données, la couronne de vie qui nous attend et l'espérance, le royaume à venir. Quand l'épreuve frappe, tu n'as pas seulement besoin d'un changement de situation, c'est pas une obligation. Mais tu as surtout besoin d'un changement de regard, de réaliser les bénédictions que Dieu t'a données. Et c'est ça qui fonde notre joie en Dieu. Mais surtout, prie. Prie, fais la prière de Paul. En Éphésiens 1, 19, il dit « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Qui vous le fasse connaître ? Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la gloire de son glorieux héritage qu'il réserve au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Et c'est la prière que nous devons faire quand ça devient dur, quand nous ne parvenons pas à réaliser ces choses. Demandons au Seigneur d'ouvrir les yeux de notre cœur pour réaliser pleinement les bénéfices, les bénédictions de Dieu. Et si on n'arrive pas à prier seul, Dieu nous a intégrés dans l'Église. Nous ne sommes pas seuls. Prions avec les amis, avec les frères et sœurs. Si nous nous sentons découragés, demandons de l'aide dans la prière à nos frères, à nos sœurs. Parce que notre foi, nous ne la vivons jamais seule. Dieu n'a jamais voulu que nous puissions vivre notre foi seule. C'est pour ça que l'Église existe. Deuxièmement, ôte ce qui souille ton cœur. Comme je l'ai dit, l'épreuve met en lumière ce qui était caché en nous, le confort qui était caché, les désirs, nos pensées, nos idoles du cœur. Et Dieu utilise l'épreuve comme un feu qui dévoile ces choses-là. Et quand le Seigneur fait ça, il nous demande d'être comme lui l'a été. Comme lui l'a été zélé, il a envoyé son Fils unique pour nous sauver, pour nous ôter. La Bible dit, il nous a arrachés de la puissance des ténèbres pour nous introduire dans le règne de son Fils. Dieu veut que nous soyons aussi zélés pour purifier notre cœur en méditant sa parole, en priant, mais surtout en vivant communautairement. Vous savez, souvent, de nous-mêmes, on ne peut pas faire une auto-évaluation juste. On a besoin des uns des autres. J'ai besoin que mon frère pointe du doigt ce qui ne va pas dans mon cœur, ce qui ne va pas dans ma marche. Et donc, nous avons besoin des uns des autres. Si tu veux vraiment être zélé pour purifier ton cœur, tu as aussi besoin de tes frères et sœurs. Et enfin, déverse-toi dans la prière. On a vu que Dieu est bon. Dieu donne généreusement. On a vu que Dieu sauve. Dieu est constant. Dieu est vrai. Si Dieu est constant, on lit tous la Bible, on voit toutes ces prières que Dieu a exaucées. Alors en temps d'épreuve, ne te laisse pas submerger par les réalités de la vie. Rappelle-toi que Dieu donne. Dieu est un Dieu bon. Et donc c'est une invitation pour toi et moi à courir dans la prière. Prier le Seigneur. Nous fortifier dans le Seigneur pour ne pas que nos désirs prennent le pas sur nous. Je nous invite à prier. Oui Seigneur, quelle richesse, quelle bénédiction pour nous, ta parole. La Bible dit qu'autrefois nous étions sans espérance, exclus de ton peuple. Mais par l'intermédiaire de Jésus-Christ, qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui se tient à la droite de Dieu intercédant pour nous chaque jour, tu nous as sauvés. Et tu nous donnes pleinement, Seigneur, d'être participants à ton royaume. Seigneur, on est conscient aussi que ce monde est un monde déchu. On est conscient que notre cœur est un cœur tortueux. On est conscient que notre regard est perverti. Alors, on te demande, Seigneur, ce matin, de nous aider par ton esprit. Aide-nous à comprendre ces réalités célestes. Aide-nous à ne pas rester attachés aux choses de ce monde. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que nous devons dépendre de toi dans la prière et dans la vie communautaire, Seigneur. Aide-nous. Aide ton peuple, aide ton Église. Et nous ne manquerons pas de te rendre gloire, de te glorifier, de t'élever dans nos vies, Seigneur. Nous te bénissons pour qui tu es. Que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.